La première,
9h-10h, le dimanche,
les Belges du bout du monde,
avec Adrien Jovenot.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Si tu vois un crocodile acheter un pantalon, c'est qu'il a trouvé une solution pour faire sortir sa queue, dit le proverbe éthiopien. Traduction, il ne faut jamais sous-estimer l'intelligence d'autrui. Et ça tombe bien, puisque nous recevons ce matin un berger éthiopien devenu un des plus grands chirurgiens du royaume de Belgique, le professeur Mitiko Belachef. Bonjour Mitiko.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Je vais bien, Adrien, merci.
Je suis vraiment ravi de vous accueillir, vous qui êtes né à 3000 mètres d'altitude dans un tout petit village au bord d'un cratère. On ne sait pas il y a combien d'années, en fait, ça reste un peu un mystère.
Comme je dis en blaguant, et puis c'est devenu un petit peu une habitude, moi j'ai pas d'âge, je ne suis pas tracassé par le problème d'âge. Je ne suis pas affecté par l'âge, donc bon, je suis un certain âge, oui.
Une certaine expérience. Oui. Vous êtes entre autres l'inventeur de l'anneau gastrique par laparoscopie, alors qu'à 12 ans, vous ne saviez ni lire ni écrire. Une sacrée success story que vous racontez dans Le Berger devenu chirurgien, une autobiographie parue aux éditions Percé. Et en ce beau dimanche de la Foire du Livre de Bruxelles, nous allons parcourir cet ouvrage en duplex avec un Belge du bout du monde installé depuis 20 ans au moins, dans votre pays natal, c'est le Liégeois Pascal Jeunesse. Bonjour Pascal.
Bonjour. Bonjour Gaché Mitiko. De Nastelin.
De Nastelin. Bonjour mon ami Pascal. Salam no. Ça va bien, oui, merci. Et toi?
Heureux de te parler, mon cher Mitiko.
Et moi aussi, ça m'a fait un plaisir.
Ah, je vois que le monde est un village que vous connaissez. Et vous connaissez aussi bien l'un que l'autre le pays de l'autre. Vous, Mitiko, vous avez fait des merveilles en Belgique. Et Pascal, il fait des merveilles dans la corne de l'Afrique. Comme Mitiko, vous contribuez au bien-être de ce pays puisque vous travaillez au PAM. C'est quoi le PAM, Pascal ?
C'est le Programme Alimentaire Mondial des Nations Unies.
Il y avait du boulot en Éthiopie, il en reste pas mal, hein, j'imagine.
Malheureusement, cette année, l'Éthiopie doit prendre en compte ce qu'on appelle El Niño, qui est un phénomène climatique qui lui vaut, dans certaines parties de l'Éthiopie, une sécheresse. Et donc, c'est un surcroît de travail pour le Programme Alimentaire Mondial, mais d'abord pour le gouvernement éthiopien, qui d'ailleurs, très tôt, a pris les choses en main, a réagi et a répondu, tant par des moyens logistiques que financiers, aux problèmes causés par la sécheresse.
Nous aurons l'occasion d'en reparler d'ici 10 heures avec entre autres nos deux chroniqueuses bourlingueuses de la première, Sophie Merguen et Mariam Allard. Bonjour.
Bonjour.
Alors Mariam, lauréate de la Belgodyssée 2014, vous allez nous présenter l'Éthiopie, qu'on appelle aussi le pays des hommes libres, un des seuls pays d'Afrique. Si je me trompe, vous m'arrêtez, qui n'a jamais été colonisé.
Qui n'a jamais été colonisé. Ouais. 3000 ans d'histoire, quasi ininterrompue. C'est le seul pays d'Afrique qui n'a jamais été colonisé par une défense bien organisée. Hein. Ça n'a pas été un cadeau donné par les colonisateurs. C'est parce que le gouvernement était bien organisé. Il avait une armée, il s'est défendu, il a gagné des guerres.
On en reparlera tout à l'heure avec Mariam. Et vous, Sophie, lauréate de la Belgodyssée 2015, vous allez nous présenter une initiative originale.
Ouais, aujourd'hui, on va parler technologie et l'Éthiopie pourrait bien devenir un pilier de développement de l'intelligence artificielle. On le verra, les applications smartphones sont en passe de révolutionner l'éducation.
Les Belges du bout du monde, sur la première.
Avant de vous présenter plus amplement nos Belges du bout du monde en Éthiopie, nous plantons le décor avec vous, Mariam Allard. C'est un pays qui a une histoire aussi vieille que l'humanité et une géographie époustouflante.
Oui, alors tout d'abord, l'Éthiopie est un pays assez colossal de par sa grandeur. Il a une superficie d'environ 1 100 000 km², c'est-à-dire grosso modo 37 fois la Belgique, rien que ça. Sa capitale est Addis Abeba, on y parle l'amharique.
Je vois que Mitiko Opine du chef. Alors, comme tout vaste pays, il y a une multitude de paysages à y découvrir.
Oui, ces étendues désertiques, ces lacs, ces hauts plateaux, ces volcans, des tas de clichés que l'on aimerait avoir en mémoire. Le climat varie tout autant que le paysage. On peut y trouver un climat alpin à haute altitude, c'est-à-dire une moyenne de 5 degrés. Mais on peut aussi y trouver un climat désertique, une moyenne de 40 degrés. Le pays est aussi touché par la mousson de l'océan Indien.
Pays riche aussi en histoire.
Oui, tout à fait. Le pays est vu comme le berceau de l'humanité et c'est là que l'on a découvert Lucie. Elle a longtemps été le plus ancien australopithèque retrouvé. Mais l'Éthiopie, c'est aussi une succession de conquêtes, ce qui explique les différentes religions, entre autres. Les rois et les empereurs et les présidents se sont succédés. Aujourd'hui, c'est un président qui dirige le pays, Mulatu Teshome.
Un pays où a vu le jour Mitiku Belachef. L'endroit de votre naissance, c'est à combien de kilomètres de la capitale, Mitiku ?
C'est 150 kilomètres vers l'ouest. De l'Éthiopie.
Des kilomètres que vous avez souvent parcourus à pied, pieds nus, avec votre petite canne de berger. Vous êtes devenu berger à quel âge ?
Oh, j'ai commencé très tôt, dès l'âge de 6 ans. Je m'occupais de petits animaux, de petits veaux, de poules. Et jusqu'à l'âge de 12 ans, j'étais berger jusqu'à l'accomplissement, disons, d'une profession
oui.
bien accomplie où je pouvais garder des animaux assez grands, les vaches, les chevaux, les chèvres. Et les moutons.
C'est une éducation en pleine nature. En fait, vous avez été à l'école de la vie, l'école de la nature. C'était pas l'école avec des professeurs, c'était le soleil, votre maître.
Exactement. J'ai eu ce privilège qui m'a vraiment bâti. J'ai construit ma personnalité autour de ça, en observant la nature, ses forces et le soleil qui se lève, qui se couche, l'orage, la pluie, tout ce rythme que j'ai finalement maîtrisé. Et il y a aussi ce que j'ai appelé la science de berger. Savoir l'heure, ça la montre.
Savoir détourner la pluie. J'ai appris ça dans votre livre, qu'il y a moyen de détourner la pluie.
Oui, en tout cas, là où on peut le détourner, pas sur beaucoup de kilomètres, mais sur quelques mètres, on peut le détourner en faisant un grand feu qui fait évaporer les gouttes d'eau qui tombent sous forme de pluie. Et donc j'ai appris, quand j'ai accompli disons, mon apprentissage, que je suis devenu un bon berger qui connaissait la science locale de la nature. Il était temps de faire autre chose.
Vous avez appris en tout cas à être très tôt, très fort dans la souffrance et dans le soulagement de la souffrance des autres. Vous êtes devenu chirurgien et votre livre raconte ce parcours depuis les hauts plateaux d'Éthiopie jusqu'au bloc opératoire en Belgique et partout dans le monde. Vous, Pascal Johannes, votre patronyme révèle vos racines. Vous êtes de SB Liégeoise.
Tout à fait. Vous trouverez des Johannes dans la SB liégeoise. Je suis petit-fils de forgeron.
Et vous avez connu plusieurs vies, un petit peu comme Mitiku. Vous avez d'abord été chercheur au FNRS.
Oui, j'ai étudié l'histoire de l'art à Liège, sous la direction du professeur Stiennon, un médiéviste. Et j'ai travaillé pendant 8 ans entre le musée Benaki à Athènes, le ministère grec de la culture, le musée byzantin, le mont Athos, et puis à Istanbul, au musée de Topkapi, en tant que membre de l'Institut français d'études anatoliennes.
Comme quoi il y a 1000 vies dans une vie, c'est ce que disait le Mahatma Gandhi, et c'est aussi le titre du 3e chapitre du livre de notre invité Mitiku Belachef, que j'ai dévoré. Hein. Ça se lit vraiment très facilement, c'est super agréable, ça fait voyager. Puis j'ai appris, Mitiku, que vous aviez aussi des maisons à Liège, à Rabat, à Addis Abeba, en Dordogne, partout vous êtes chez vous, vous êtes un citoyen du monde. La suite de vos histoires, nous allons les raconter après avoir écouté un artiste éthiopien. Il s'appelle Mulatu, hein, comme le président. Mulatu Astake sur la première.
Vous aussi, vous connaissez des Belges du bout du monde ? Livrez-nous vos bons plans et vos contacts sur Twitter via le hashtag BBDMRTBF.
Sourma, c'était Mulatu Astake sur la première qui se penche ce matin sur un des berceaux de l'humanité, l'Éthiopie, avec Pascal Johannes, liégeois, directeur adjoint du programme alimentaire mondial, le PAM à Addis Abeba, et Mitiku Belachef, auteur du Berger devenu chirurgien, un ouvrage à découvrir ce dimanche avec la première à la Foire du Livre de Bruxelles.
Les Belges du bout du monde, jusqu'à 10h sur la première, Adrien Jovenot.
L'Éthiopie, un pays qui a souvent fasciné les poètes. C'est là qu'Arthur Rimbaud a écrit Une saison en enfer, par exemple. Et puis l'enfer, c'est vrai que le pays l'a connu. On a tous en tête les images des famines des années 80. Kouchner et son sac de riz, Geldof et son band-aid, Goldman et ses chanteurs sans frontières. Loin du cœur et loin des yeux, l'Éthiopie qui meurt peu à peu, c'était Goldman dans les années 80. La situation a changé hein, du pays, pays qui s'appelle maintenant la République fédérale démocratique d'Éthiopie, Mariam.
Oui, à partir de 1995, l'Éthiopie prend le chemin de la démocratie. La route a été rude. Le pays a longtemps été sous le régime répressif de parti unique, dirigé par le Derg, un gouvernement militaire provisoire qui aura duré quand même 13 ans. Économiquement, le pays dispose de nombreuses ressources, comme de nombreuses terres cultivables. Le café, par exemple, représente une part importante de ses exportations. Mais il bénéficie aussi de sols riches en or, en gaz naturel, en fer. On y retrouve aussi de nombreuses pierres, comme l'opale, le topaz ou encore le tantale, utilisées en électronique. Autre ressource importante, bien sûr, le pétrole. Depuis 2004, le pays se porte bien économiquement, il connaît une grosse croissance, mais les revenus de la population restent faibles. Pour certains économistes, l'Éthiopie est un exemple des dérives de la mondialisation et des mesures imposées par le Fonds monétaire international, mesures qui freineraient les progrès sociaux.
On va en avoir la confirmation avec Pascal Johannes qui vit sur place depuis une vingtaine d'années. Il est vice-directeur du PAM, le Programme Alimentaire Mondial, là-bas à Addis Abeba. Quelque chose à ajouter, Pascal ?
Je voudrais demander à vos auditeurs d'oublier Jean-Jacques Goldman, d'oublier Band-Aid, et même d'oublier mon ami Bob Geldof. Tout cela, c'était il y a 30 ans. L'Éthiopie a bien changé. Depuis maintenant plus de 10 ans, 11 ans exactement, la croissance de l'Éthiopie est une des plus fortes du monde, puisqu'elle dépasse 10%. Nous sommes d'accord, croissance du produit intérieur brut n'est pas nécessairement développement dans les campagnes, mais d'énormes progrès ont été faits. La pauvreté recule, d'après les statistiques qui sont acceptées aussi bien par le gouvernement que par les donateurs. Elle était de 40% il y a 10 ans, elle n'est plus que de 29% aujourd'hui et toujours en recul. Oui, il y a eu des sécheresses, il y a eu des famines. Il y a encore des sécheresses, il y aura encore des sécheresses. C'est la nature de l'Afrique de l'Est avec en plus l'effet du changement de climat. Mais je ne pense pas qu'il y aura encore de famine, puisque à la fois le gouvernement éthiopien a pris les choses en main, mais aussi supporté, soutenu par les pays donateurs et les agences des Nations Unies comme la mienne.
Oui, ben ça fait du bien d'entendre un autre son de cloche de l'Afrique, l'Afrique en mouvement, l'Afrique qui se développe même si le chemin reste long et difficile. Mitikou, dans votre livre, on parcourt aussi l'histoire de votre pays. Vous êtes arrivé en Belgique pour faire vos études, vous avez décroché une bourse finalement de façon un peu surprenante, parce qu'à 12 ans, vous ne saviez ni lire ni écrire. Et à quel âge avez-vous passé votre bac, Mitikou?
À 19 ans, donc j'ai commencé l'école à 12 ans. À 19 ans, j'étais au seuil de l'université, ouais. J'ai fait passer mon bac. Et j'ai eu un concours de bourse de l'UNESCO que j'ai réussi à... Puis on m'a proposé plusieurs pays, immédiatement la Belgique ou dans 6 mois dans le pays où j'étais naturellement destiné parce que j'étais anglophone, j'ai fait tout en anglais. La Grande-Bretagne ou les États-Unis, ou immédiatement pour la Belgique. Et j'ai choisi la Belgique avec toutes les difficultés.
Oui, ce n'est pas pris le plus simple parce qu'on n'a pas d'école universitaire en anglais. Comment est-ce que vous avez appris le français ?
Dans la rue. Je n'ai pas eu de cours particulier. Il n'y avait pas de cours à Liège. Donc j'ai plongé directement dans la faculté de médecine. En me refusant à parler d'autres langues, que ce soit ma langue nationale avec un ami éthiopien que j'ai découvert, ni avec des liégeois en anglais, j'ai essayé de plonger dans le français, dans la rue, dans le café, dans les discothèques.
Dans les discothèques, on ne perd jamais son temps dans les discothèques. Et dans les romans de Pagnol, hein, je me suis laissé dire que c'est en lisant Pagnol que vous avez pu améliorer votre français.
C'était mon premier livre.
Votre premier livre, pas mal, pas mal. Et vous, Pascal Johannes, on sait qu'il y a 400 langues et dialectes en Éthiopie. Vous pouvez en parler l'un ou l'autre. Vous parlez quelle langue ?
Bien entendu, la langue de travail avec le gouvernement éthiopien et mes collègues des Nations Unies est l'anglais. Ma méconnaissance de l'amharique restera jusqu'à la fin de mes jours une honte linguistique. Disons que je me débrouille.
C'est pas mal quand même, hein, on vous a entendu échanger en début d'émission avec Mitiku. C'est pas mal du tout. Après la pub, nous parlerons de tout ce qui s'est passé dans vos vies respectives. Il y a eu des écueils, il y a eu des réussites. Ce sera à suivre dans Les Belges du bout du monde sur La Première. Ne quittez pas.
9h-10h,
Les Belges du bout du monde sur La Première,
avec Adrien Jouvenot.
Excellent dimanche sur La Première à 10h. Alain Gerlache décodera l'actualité de la semaine écoulée. Mais d'ici là, ce sont les Belges du bout du monde avec nos chroniqueuses Mariam Allard et Sophie Mergen. Et puis des expats qui nous épatent. Pascal Johannes, directeur adjoint du PAM à Addis Abeba. Et Mitiku Belachef, le berger devenu chirurgien.
Tweetez avec les Belges du bout du monde via le hashtag BBDMRTBF.
Ce n'est pas le travail qui nous dégrade, mais la façon dont nous le faisons. C'est une de vos devises, Mitiku, dans le livre, vous le racontez. C'est pas déshonorant d'être berger ou d'être laveur de carreaux. Il faut donner à tout son travail, toute son âme.
Oui, c'est par hasard que je ne suis pas resté berger, parce que naturellement, en étant berger, là où il n'y avait pas d'école, aucune autre alternative, j'étais destiné à être berger. Mais il n'y a pas de honte à être berger. J'aurais certainement été un bon berger. Le hasard a fait que j'en suis sorti. J'ai fait un parcours tout à fait atypique qui m'a amené à être un chirurgien. Mais moi, effectivement, ma philosophie, c'est pas le travail que nous sommes obligés de faire, qui déshonore ou dégrade, mais la façon de le faire. Il y a moyen de faire un bon travail là où on est. On peut être un fonctionnaire, un balayeur de rue ou un nettoyeur. Moi, je crois que je respecte toutes les personnes qui font n'importe quelle profession. Et il y a de bons nettoyeurs de vitres, il y a de bons ouvriers.
Et il y a des mauvais chirurgiens.
De mauvais chirurgiens, de mauvais contremaîtres, de mauvais directeurs aussi.
Oui. Je vous lis page 324 de votre livre, Le berger devenu chirurgien. J'ai un pied en Afrique et un pied dans l'hémisphère nord. Ça me permet de voir la relativité des choses. J'ai côtoyé la grande misère, mais également l'opulence. J'ai soigné tantôt un milliardaire déprimé, tantôt un affamé qui sourit. J'ai vu la dignité des démunis et la bassesse des nantis. C'est cinglant hein, comme livre, il faut le parcourir. Je vous le recommande vivement. En ce dimanche de la foire du livre, allez vous le procurer. Le berger devenu chirurgien. C'est notre invité, Mitiku Belachef. Mitiku, vous qui vivez sur place depuis 20 ans là-bas en Éthiopie, a une bonne réputation, on le connaît un peu dans le pays, lui qui est parti depuis 40 ans, Pascal Johannes.
Oui, c'est une figure de la ville et du pays. Tout le monde connaît son succès et je veux croire que la publication de son livre va encore augmenter, si besoin est, sa réputation.
Quand vous avez entendu parler de lui, parce qu'il a un nom un peu particulier, un Belachef, qu'est-ce que ça vous a inspiré, ce nom Belachef ?
J'ai eu de nombreux amis qui ont étudié la médecine et qui ont eu la chance d'être formés à l'hôpital de Wuhan, à la chirurgie, par celui qu'on appelait le professeur Belachef. Je pensais qu'il s'agissait de quelqu'un avec des origines russes ou ukrainiennes.
Alors j'imagine que justement avec votre nom, il y a eu pas mal de quiproquos avec vos patients, des quiproquos souvent révélateurs de petits racismes tristement ordinaires, des personnes qui avaient rendez-vous avec vous, le grand inventeur de l'anneau gastrique, le professeur. Parfois on venait d'Arabie ou de pays très très lointains pour consulter chez vous. Il y a eu des histoires assez folles.
Oui, il y a eu on m'imaginait, comme Pascal vient de le dire, Et on imaginait effectivement quelqu'un originaire de l'Union soviétique de l'époque, avec des yeux bleus et des cheveux blonds. Et donc, ils allaient venir voir un chirurgien originaire des pays de l'Est. Et donc, l'exemple, c'est que j'ai cité dans mon livre, c'est un malade de Moyen-Orient, très obèse, près de 200 kilos, qui vient me consulter. Et alors, il est dans la salle d'attente, l'infirmière l'amène dans mon cabinet de consultation. Et puis, je lui dis, voilà, bonjour. Et il regarde, il me dit, où est le professeur Belachev? J'ai dit, excusez-moi, mais c'est moi. J'ai suspecté, évidemment, ce qui allait résulter. Il m'a dit, non, il y a erreur, je suis venu voir le professeur Belachev, pas vous. Je lui dis, excusez-moi, mais c'est bien moi, le professeur Belachev. Et il a dit, non, il y a erreur. Ouais. Donc, il est parti. En disant qu'il s'attendait à quelqu'un d'autre.
Vous écrivez d'ailleurs dans votre livre, il est plus facile de désintégrer un atome qu'un préjugé. C'est une phrase d'Einstein. Mais dans votre vie professionnelle, vous avez souvent été, à cause de vos origines, victime de préjugés.
Oui, mais je ne peux pas dire que j'ai rien souffert, parce que c'est plus comique. Moi, je n'ai pas été affecté par ça. Pour cela, il y a peut-être mon origine éthiopienne aussi qui m'a aidé.
Parce et puis le côté belge, un peu second degré aussi, on prend les choses avec humour.
Exactement, et puis le fait que je sois né en Éthiopie, que je n'ai pas connu la ségrégation raciale, je n'avais pas de complexe d'infériorité, m'a aidé aussi. Et quand on a un certain niveau dans une société, et le racisme affecte moi aussi, donc c'était plus comique et c'était prévisible. Je ne peux pas dire que j'en ai souffert, mais le préjugé est là, hein, et c'est vraiment difficile à supprimer.
Et j'en reviens à votre devise numéro 2, fais ce que doit et laisse parler les hommes. Allez, les cancans, on laisse tomber et on avance. Exactement. Droit devant et derrière, on oublie.
Exactement. Oui.
C'est bien de rencontrer des gens comme vous, positifs. Nous allons nous intéresser maintenant avec vous, Sophie Merguen, à l'Éthiopie qui pourrait devenir une référence en matière de développement technologique. Et là aussi, on combat les préjugés, on se dit Éthiopie, Afrique, etc. Non, mais ils sont à la pointe.
Tout à fait, parce qu'à Addis Abeba, la capitale, des jeunes diplômés ont créé le premier laboratoire de recherche en intelligence artificielle. ICOG, c'est le nom du laboratoire. Dans cette salle d'expérience, étudiants ou anciens étudiants programment des robots. Ils sont développeurs informatiques et leur rôle, c'est d'améliorer les logiciels pour que les robots reconnaissent les gestes et expressions humaines, mais aussi qu'ils puissent mieux classifier les objets et images. Alors vous allez le voir, tout ça peut avoir une vraie utilité. L'Éthiopie ne cache pas son ambition de devenir un centre d'excellence en recherche scientifique et technologique.
Alors ça paraît très futuriste, est-ce que c'est vraiment adapté aux besoins de l'Afrique ?
Bah effectivement, ça paraît incompatible avec les réalités locales, très traditionnelles. La communauté éthiopienne est d'ailleurs très critique envers ces technologies du futur. Les habitants disent qu'il y a des problématiques bien plus urgentes comme la lutte contre la pauvreté. Mais on serait étonné de l'impact que peut avoir l'intelligence artificielle, notamment en matière d'éducation. Le laboratoire ICOG est en train de créer une application pour smartphone. Elle met en scène l'avatar d'un professeur éthiopien et cet enseignant robotisé est capable d'enseigner la lecture, l'écriture et même quelques notions de mathématiques. À terme, il devrait même pouvoir reconnaître les émotions des élèves et répondre à leurs questions.
Et c'est vrai qu'en Afrique, le smartphone et parfois même le Fairphone a été adopté très très rapidement.
Oui, le continent a adopté le smartphone pour la connexion Internet en sautant carrément l'étape de l'ordinateur. La révolution mobile a transformé la vie des habitants. 50% de la population subsaharienne devrait être équipée d'un smartphone d'ici 2020. Un vrai potentiel pour l'éducation. Les livres numériques ont par exemple un bel impact sur le taux d'alphabétisation. Et donc une application pédagogique peut avoir un vrai succès. À terme, l'idée est même de distribuer gratuitement des tablettes munies de cette application dans les zones rurales d'Afrique subsaharienne. Il faut rappeler qu'il y a encore énormément de régions qui souffrent d'une pénurie de professeurs, d'un manque d'infrastructures, alors peut-être que l'avenir est dans l'éducation virtuelle.
Qu'en pense le professeur Belachev, notre invité ce matin ? Parce que je crois que vous soutenez encore une école dans votre région natale.
J'ai une école, oui, là où il n'y avait pas d'école quand j'étais berger, dans cette localité isolée. Mon premier désir était de créer une école il y a une quinzaine d'années avec un groupe d'amis belges.
Et des bénévoles belges qui soutiennent ce projet.
Qui soutiennent. Ah, ouais. Nous avons une association, une ASBL dans la région liégeoise qui s'appelle Salamta. Nous avons collecté de l'argent qui nous a permis de construire une école primaire dans le fond du cratère de Wenchi, qui est mon village. Une école, donc depuis 15 ans, il y a 700 élèves scolarisés. Pour revenir à la recherche très avancée en intelligence artificielle, et maintenant pas seulement ça, il y a aussi une recherche spatiale au sommet d'Addis Abeba, qui est la colline qui est à 3300 mètres d'altitude. Ils ont installé aussi l'observation de notre univers et ils ne désespèrent pas de lancer un satellite d'ici 2-3 ans, en fait. Donc, pourquoi faire ça dans un pays qui est considéré comme un pauvre? Moi, je crois que c'est une priorité de rester au sommet, même si en bas, ça ne suit pas encore. Mais c'est un exemple. Moi, dans mon domaine, quand j'ai introduit la chirurgie célioscopique et la chirurgie dite high-tech, où on opère sans ouvrir le ventre, mais avec des petits trous, et on m'avait dit aussi que ce n'était pas une opération pour l'Afrique, ni pour l'Éthiopie. Non, il faut pas priver les gens d'avancer d'une technologie très avancée, même si la base ne suit pas. La base suivra, c'est un exemple. Il faut garder le sommet pour que la base soit attirée par le sommet.
La technologie au service du développement, c'est aussi un de vos combats sur place, Pascal Johannes.
Utilisant les services d'Ethio Telecom, nous servons à peu près 15% de nos bénéficiaires et nous leur remettons par un système d'SMS, nous leur remettons de l'argent dans leur téléphone qu'ils peuvent échanger contre des vivres chez les marchands du cru, notamment dans nos programmes de support, de soutien aux personnes séropositives.
Ouais, c'est tout à fait étonnant ce que vous nous racontez. On apprend beaucoup, beaucoup de choses. Directeur adjoint, merci beaucoup Pascal Johannes. Nous allons vous retrouver avec notre invité Mitikou Belachev dans quelques instants sur La Première, juste après avoir écouté une superbe chanson, Yael Naïm en duo avec Camille.
Retrouvez les photos et les vidéos de nos invités via la page Facebook des Belges du bout du monde.
I Wait Until, c'est une des nouvelles chansons de Yael Naïm. Elle était ici en duo avec Camille. C'est sur La Première dans les Belges du bout du monde, en Éthiopie. Ce matin, nos interlocuteurs sont Pascal Johannes, liégeois, directeur adjoint du PAM, le Programme Alimentaire Mondial, et Mitikou Belachev, le berger éthiopien devenu chirurgien.
Chaque dimanche, de 9h à 10h sur La Première, les Belges du bout du monde.
Un Éthiopien en Belgique et puis un Belge en Éthiopie jusqu'à 10h sur la Première. J'ai envie de vous demander, Pascal Johannes, quand on dit Belgique en Éthiopie, on a un côté un peu sympa. Qu'est-ce que ça évoque dans la mémoire des gens que vous rencontrez sur place, le mot Belgique?
En fait, Belgique désigne un fusil qui se recharge par la culasse et qui était entre les mains des armées éthiopiennes quand ils ont défait les Italiens à la bataille d'Adwa en 1896.
Ah bon ?
Ou sinon Belgique se dit Belgica. Mais Belgique, avec un long I, c'est le fusil qui a permis à l'armée éthiopienne de contrer les efforts de colonisation italienne à la fin du 19e siècle.
Ah oui, donc c'est un mot audacieux, quoi. Ça en jette,
oui,
quoi, quand on dit Belgique.
Oui.
Alors, très très bien. Je cite le professeur dans son bouquin, page 67. « Je veux montrer au monde que mon pays, l'Éthiopie, a toujours gagné avec détermination et héroïsme. » C'est ce que vous avez fait dans votre vie, hein. Vous êtes berger à la naissance jusqu'à 12 ans et puis vous devenez chirurgien avec beaucoup d'efforts sur votre route. Et finalement, vous soignez tout au long de votre carrière 30 000 patients, hein, si on compte pendant 30 ans de travail, 1 000 patients par an.
Les 30 000 patients pas seulement vu et soigné, mais opéré réellement avec anesthésie générale. Donc,
vous avez fait plus d'opérations que moi d'émissions.
J'ai opéré dans le monde entier, donc il y a plus que c'était 30 000, c'était dans un seul centre. J'ai opéré dans 15 universités américaines, dans pas mal d'universités australiennes et européennes aussi. Donc,
pas mal le petit berger. Hein.
Oui, donc j'ai travaillé beaucoup. Et alors après ma pension, j'ai voulu aussi introduire cette technique de chirurgie célioscopique en Éthiopie. Donc j'ai pas mal opéré là-bas aussi. Donc il y a beaucoup d'opérations que j'ai faites. Et en même temps, enseigner, c'était aussi mon rôle. Donc j'ai enseigné ma technique, j'ai enseigné maintenant la chirurgie célioscopique en Éthiopie. Non seulement nous soignons des patients gratuitement, mais nous transférons notre savoir, nous formons des équipes de médecins et de paramédicaux sur place.
Pour assurer la relève.
Voilà.
Bravo, oui. Bravo. Alors, votre pays, Mitiku Belachev, est aussi connu pour sa capacité à former des sportifs. Il y a des sportifs de haut niveau. Je vais vous faire entendre un document d'archives et je vous demander d'essayer de reconnaître où ça se passe et en quelle année. C'est un événement auquel vous faites d'ailleurs allusion dans votre livre « Le berger devenu chirurgien ».
Au milieu des ruines de la Rome antique, le marathon part du Capitole. À mi-course, ils sont quatre en tête. Parmi eux, un homme qui prête à sourire. Il a 28 ans et n'a jamais posé ses pieds nus hors de sa terre natale. Personne n'a cru l'Éthiopien lorsqu'au moment de l'inscription, il a indiqué son temps, meilleur que celui du grand Zatopek lui-même. Plus qu'un kilomètre avant l'arrivée. Et maintenant, Radi doit laisser l'Éthiopien s'en aller vers son destin. Désormais, le nom d'Abbé Bibikila résonnera toujours dans cette fabuleuse nuit romaine. Aujourd'hui, pour la troisième fois dans l'histoire, Rome et le royaume de Saba se sont affrontés, mais cette fois-ci sous l'arc de Constantin. Abbé Bibikila a vengé Haïlé Sélassié et son peuple, écrasé sous les bombes d'Uduce, 25 ans plus tôt. En remportant le marathon de Rome, c'est l'Éthiopie qui entre dans la légende de la course à pied.
Abebe Bikila, premier Africain à gagner une médaille d'or aux Jeux Olympiques. C'était en quelle année ?
1960.
Bravo, professeur !
Nous avons fêté, parce qu'il était à l'école en ce moment-là. C'était un héros quand il est revenu, c'était une fête nationale. Non seulement le premier Éthiopien, mais c'était le premier Africain à gagner une épreuve olympique.
Et vous racontez dans votre livre son retour au pays et vous étiez dans la capitale pour l'acclamer quand il est rentré comme un dieu vivant ou presque.
Exactement.
Ouais. Vous aussi, vous avez appris à marcher, première chaussure à l'âge de 16 ans. Vous marchiez pieds nus avec votre canne de berger. Vous avez encore cette canne de berger ?
Oui, j'ai plusieurs cannes en fait. Je suis collectionneur de cannes de berger. Et oui, j'ai des cannes. Je marche toujours avec des cannes, mais maintenant, même si j'ai pas de handicap ni rien, c'est parce que c'est un moyen de s'appuyer, parce que ça aide pour marcher.
Ah, le bâton
et
de berger.
En même temps, c'est aussi un instrument de défense. Et voilà, j'ai ma canne et j'ai marché pieds nus jusqu'à l'âge de 16 ans. J'ai fait aussi un peu de course à pied quand j'étais à l'école. Je faisais le cross-country, 10 000 mètres.
Un esprit sain oui. Dans un corps sain.
Oui, oui, oui.
Le professeur Mitiku Belachev, qui est aussi alpiniste, même plus qu'alpiniste, puisque vous avez escaladé non seulement le toit de l'Europe, le toit des Alpes, mais le toit de l'Afrique. Vous êtes arrivé au sommet du Kilimandjaro.
Oui, c'était un défi que j'ai toujours cherché à vaincre, parce que la montagne a toujours symbolisé mon parcours dans tous les sens.
Grand voyageur, citoyen du monde, un peu comme vous, Pascal Johannes, vous avez travaillé en Éthiopie, mais avant ça, il y avait une carrière de chercheur pour le FNRS. J'aimerais que vous racontiez aussi un petit peu l'accident de parcours, la fois où vous vous êtes fait virer à cause de Val-Duchesse, Pascal.
Je n'étais pas le seul, vous savez. La décision du gouvernement belge en 86 de faire des économies a coûté leur carrière à une trentaine de chercheurs. Inutile. On a beaucoup insisté sur le mot inutile. Anthropologue, historien, musicologue et historien de l'art comme moi. Et donc, je me suis retrouvé à Liège, videur dans une boîte de nuit pendant 2 ans. ce qui était une façon d'essayer de terminer une thèse de doctorat. Et un ami très cher, que je cite pour lui rendre hommage, Emmanuel Deisser, m'a emmené à Amsterdam, m'a présenté à Jacques de Miliano, qui à l'époque était président et directeur général de Médecins sans frontières Hollande. Et 15 jours plus tard, j'étais à Kosti, à 250 km au sud de Khartoum. Et c'était ma première mission pour Médecins sans frontières Hollande.
Un chercheur inutile qui trouve du travail et qui trouve un sens à sa vie et qui sait rebondir, c'est pas mal, hein.
Voilà. Après ça, il y a eu le Comité international de la Croix-Rouge, qui est peut-être une des meilleures organisations humanitaires que j'ai jamais pratiquées. Et puis est venue la Commission européenne et les Nations unies.
Finalement, merci Eva Luchès de vous avoir viré, parce que grâce à ça, vous avez pu faire des tas d'autres choses.
Écoutez, j'ai dû quitter l'Empire byzantin, j'ai dû quitter la Turquie, la Grèce, mais si ce n'était pas arrivé, je n'aurais jamais connu mon grand amour, qui est l'Éthiopie.
Avant de clôturer ces Belges du bout du monde en Éthiopie, un petit coup d'œil vers le futur. À quoi faut-il s'attendre là-bas au pays des hommes libres, Maria Mallard ?
Eh bien alors, même si le pays est dans le vert économiquement, la situation est loin d'être idyllique pour les Éthiopiens. Le développement économique du pays a attiré les multinationales et les entreprises étrangères, et cela au détriment des petits agriculteurs. D'ailleurs, fin 2015, les habitants d'Oromia, au sud du pays, sont descendus dans les rues pour manifester. En cause, un plan d'urbanisation dans la région d'Addis Abeba qui visait à agrandir la capitale. La population avait peur que cela débouche sur des expropriations de fermiers. Après près de 2 mois de manifestations, les autorités ont finalement abandonné leur projet d'urbanisme.
Après que les manifestations aient été durement réprimées. Hein.
Oui, Human Rights Watch accuse la police d'avoir tiré sur les manifestants et d'avoir tué pas moins de 140 personnes. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que cela arrive. En 2014, le pays a été confronté au même problème. En octobre dernier, Amnesty International national a accusé les autorités d'abus systématiques contre les Oromos.
Alors on va terminer sur une note un peu plus positive, du sport.
Oui, et bien justement on en parlait, hein, le marathon et l'Éthiopie, c'est une longue histoire. L'Éthiopie a dominé le marathon de Dubaï. En homme, les 6 premières places ont été remportées par des Éthiopiens. En dames, l'Éthiopie a occupé pas moins de 9 places du top 10. Des résultats de bon augure à l'approche des Jeux Olympiques de Rio l'été prochain.
Oui, ou des 20 km de Bruxelles, où ce sont souvent des Éthiopiens ou des Kenyans qui s'impose. Vous-même, vous pratiquez du sport sur place, Pascal Johannes ?
Ah non, pas du tout. Moi, j'ai passé l'âge du sport de compétition. Le mien était la lutte gréco-romaine que je pratiquais en Turquie. Mais je voudrais surtout pouvoir citer les noms d'idoles absolues dans le domaine des 10 000 mètres et du marathon, que sont Haile Gebrselassie ou Kenan Issa Bekele pour les hommes. Et bien entendu, la belle et talentueuse Firounej Dibaba pour les femmes.
Sans oublier Deratou Toulou, tous ces noms sont évoqués par Mitiku Bedachev dans son livre Le berger est devenu chirurgien. C'est moi qui vous remercie, hein, Pascal Johannes, d'avoir participé à cette émission. On a appris plein de trucs. Alors, vous avez pulvérisé des clichés sur l'Afrique avec le professeur Bedachev. Vous avez été très forts tous les deux, hein. Très beau duo. Merci beaucoup, professeur.
Merci à vous, c'était un plaisir.
Alors si vous avez manqué cette émission ou si elle vous manque déjà, rendez-vous sur lapremière.be et 24 heures sur 24 sur la page Facebook des Belges du bout du monde pour le podcast, les vidéos et les photos des coulisses de cette émission. Je remercie nos chroniqueuses Sophie et Mariam. Oh, on a encore une petite minute. Est-ce que vous avez chacune une question à poser à nos invités ?
Oui, moi j'avais une question. Donc est-ce que ça vous arrive, donc pour Mitiku, est-ce que ça vous arrive de redevenir berger le temps d'une journée ou quelques jours ?
Je crois que dans ma philosophie de vie, en tout cas juste avant mon sommeil, je suis toujours berger. C'est la base de mon existence. Quand j'ai une petite insomnie, je pense à Onji, à mes montagnes, mon lac. Je suis franchement berger. Que je retourne très souvent dans la région où je suis né. Ça n'a pas changé.
Sophie ?
Alors moi, Pascal, je me demandais qu'est-ce qui vous pousse à rester en Éthiopie ? Comment expliquer ce coup de cœur ?
On n'explique pas. Est-ce que vous pouvez expliquer le fait que vous tombiez amoureux ?
Non.
C'est parfois un peu compliqué. Eh bien, moi, ça m'est arrivé il y a bien longtemps, en 91, je suis tombé amoureux. L'Éthiopie est une grande partie de ma vie. Que voulez-vous ? Je ne vais pas vous assassiner avec des banalités. Les paysages, les hommes, les femmes. Voilà, c'est devenu la maison.
Ah, quelle belle maison. Dans ma maison, vous viendrez, disait Prévert. J'espère un jour venir dans la vôtre, hein, Pascal Johannes. Vous nous avez fait rêver. Merci beaucoup à vous. Merci, professeur Belachev.
Merci à vous. Et Pascal, je crois que tu as ce qu'on appelle le virus éthiopien. C'est pas curable.
Inoculé par le professeur.
Oui, et jamais je ne viendrai, Mitikou, te demander de m'en débarrasser.
C'est pas mal. Mitikou, si vous voulez le rencontrer, il sera à la foire du livre aujourd'hui pour dédicacer son bouquin Le berger devenu chirurgien. Dimanche prochain, nous serons en Corse chez Martin Baldovini, qui dirige une fromagerie à Bandiola. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ces Belges du bout du monde. Dans un instant, Alain Gerlache et ses décodeurs RTBF.
La première, podcast.